Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot.
France Culture, bienvenue dans Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique en direct jusqu'à 20h30. La CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, est là pour nous protéger. Cet organisme national a d'ailleurs comme devise, disons, protéger les données personnelles, accompagner l'innovation, préserver les libertés individuelles. Depuis février, la CNIL est présidée par la magistrate Marie-Laure Denis, qui est mon invitée ce soir. Bonsoir madame.
Bonsoir Frédéric Martel.
Vous êtes conseillère d'État, avec vous nous parlerons des données comme enjeu de pouvoir, des données comme enjeu éthique. On tracera un premier bilan du RGPD un an après et on essaiera aussi d'imaginer l'avenir de la CNIL au moment où tout ça s'accélère, où évidemment ces débats sont globaux et non pas simplement nationaux. La CNIL qui a 40 ans et peut-être pas tout à fait toutes ses dents. Vous serez interrogé ce soir par trois journalistes, Marie-Laure Denis sur France Culture en direct, Sandrine Cassini du journal Le Monde. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir.
Gilles Fontaine de Challenge.
Bonsoir Frédéric.
Et Zoé Sfès de France Culture. Bonsoir Zoé.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous.
Toujours au sommaire de cette émission, nous parlerons ce soir de deux livres, celui de Françoise Nyssen, Plaisir et nécessité, un plaidoyer pro-domo de l'ancienne ministre de la Culture, et puis de East Village Blues de Chantal Thomas. Et puis en seconde partie d'émission, à 20h, votre invité innovation ce soir, Zoé Sfès.
C'est le professeur de littérature et de médias Yves Citon, qui travaille depuis très longtemps sur la question des médias, de l'attention et qui publie, qui co-dirige un ouvrage assez massif et important aux éditions UGA, écologie de l'attention et archéologie des médias. On va essayer de poser les enjeux théoriques de sa recherche, qui est une recherche qui, évidemment, éclaire toute une série de sujets dont nous parlons toute l'année ici dans Soft Power.
Et 20h10, on continuera justement à parler de pensées, d'idées dans le club de la presse numérique, car nous parlerons ce soir des penseurs du web, qui sont ces auteurs qui nous aident justement à penser les mutations numériques. On fera un état des lieux, un tour d'horizon des penseurs du numérique et de la transition numérique. Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power ce soir. Cette émission est réalisée par Véronique Villa. Avec en régie Jacques Hubert, Soft Power, c'est aussi sur les réseaux sociaux, au mot-clé Soft Power et un podcast chaque semaine sur le site de France Culture, sur iTunes et sur l'application podcast de votre smartphone. Soft Power jusqu'à 20h30 sur France Culture en direct. Plaisir et nécessité, tel est le titre d'un livre que l'ancienne ministre de la Culture, Françoise Nyssen, vient de publier aux éditions Stock. Et je commence cette émission en revenant sur ce récit à la première personne, dont on a déjà parlé d'ailleurs sur France Culture, notamment, je crois, Mathilde Serrel dans sa chronique matinale, et bien sûr Françoise Nyssen elle-même, invitée des matins. Avec un peu de recul et après une lecture attentive, je dois dire que cet ouvrage m'a intéressé car il nous livre une vision interne à vif du pouvoir et notamment du fonctionnement du ministère de la Culture. Avant d'en venir à sa fonction, Françoise Nyssen décrit minutieusement dans son livre son parcours, celui d'une femme de nationalité belge qui ne s'est jamais totalement sentie chez elle dans la politique française et dans les dîners en ville. Pourtant, ce parcours est plus militant qu'on ne le croyait, plus politique aussi et notamment plus à gauche. Les pages qu'elle consacre ensuite à Actes Sud, la maison d'édition de son père, qu'Hubert Nyssen a fondé et dont elle a hérité, sont passionnantes et bouleversantes, celles qu'elle dédie aussi à son fils Antoine, un jeune garçon surdoué qui s'est suicidé à 18 ans et dont le souvenir demeure à chaque minute d'une vie ainsi bouleversée, à chaque page de ce livre et sans doute aussi à chaque moment de son action politique inattendue. En lisant ces pages, on reste sans voix. La tragédie de Françoise Nyssen, car c'en est une, est là, dans sa brutalité. Une femme un peu hors sol, qui n'appartient à aucun parti, une éditrice brillante et convaincue, qui n'avait aucun réseau politique, aucune connaissance des institutions, aucun allié dans la haute administration et pas non plus dans la presse. Tout ce beau monde, énarque et journaliste mêlé, lui a fait payer fort cher d'être une outsider. Les chapitres qu'elle consacre à ses 17 mois passés au ministère de la Culture sont donc une description brute et parfois naïve de la rue de Valois et des égos démesurés que l'on y croise. Le Premier ministre Édouard Philippe est la victime collatérale de ce livre. Il y est critiqué à de multiples reprises par Françoise Nyssen pour être un homme qui n'aurait pas le souci de l'art et ne s'intéresserait qu'aux questions de budget. On apprend au passage qu'Édouard Philippe était hostile au pass culture et il l'est sans doute toujours. Les conseillers du Premier ministre, énarques et peu soucieux d'art eux non plus, mais seulement d'audiovisuel, sont également raillés sans être nommés, tout comme la conseillère culture d'Emmanuel Macron, distante, réservée, pas assez franche. Stupéfaite, Françoise Nyssen découvre d'ailleurs que les notes qu'elle adresse au président de la République ne lui sont pas remises. Dans son livre, elle sauve pourtant de ce jeu de massacre le président Macron, dont elle trace un portrait chaleureux au chapitre 24. Un portrait, c'est beaucoup dire, car ce livre est rédigé comme une longue interview orale, enregistrée puis retranscrite sans aucun style. Souvent l'auteur se répète comme si elle ne s'était pas vraiment relue ou n'avait guère été éditée. D'ailleurs j'ai l'impression que ce quickbook a été réalisé à partir d'entretiens oraux puis retranscrit par une plume, disons, bienveillante. Comment savoir ? Le livre est donc sans talent aucun. Il confirme à ses dépens qu'un éditeur est rarement un bon écrivain. Une exception étant justement son père, Hubert Nyssen, dont les deux tomes de mémoire, l'éditeur et son double, que nous avons lus jadis, étaient de bonne tenue. Dans son livre, Françoise Nyssen apparaît fondamentalement sympathique, avec une sincérité à fleur de ligne. Toute sa vie, elle a cherché à corriger son image. Elle n'a pas voulu être seulement la fille de son père, ce qu'on lui a longtemps reproché. Elle a voulu être ministre en charge, qui ne se laissait imposer ni les nominations, ni ne perdait ses arbitrages. Son directeur de cabinet, Marc Schwartz, c'est bien elle qu'il a voulu, insiste-t-elle. Pourtant, il a été bientôt viré. La mission d'Éric Orsenna sur les bibliothèques, celle de Stéphane Bern sur le patrimoine, Nyssen les a voulu aussi. La culture près de chez vous, son grand plan culturel qu'elle continue à juste titre à défendre, c'est elle encore. Bien sûr, elle aurait aimé avoir un secrétaire d'État chargé de l'audiovisuel auprès d'elle pour l'alléger, lui donner de l'oxygène quand déjà elle s'asphyxiait, mais son directeur de cabinet n'en a pas voulu. Régulièrement dans son livre, Françoise Nyssen critique les nominations trop lentes, alors même qu'elle n'avait que 10 conseillers dans son cabinet et qu'elle était censée travailler avec ses directeurs d'administration centrale qui n'étaient pas nommés. On perçoit là une contradiction fondamentale du macronisme qui consiste à tout vouloir régenter depuis l'Élysée et bien sûr d'échouer à le faire dans le temps. Françoise Nyssen est besogneuse, têtue et consciencieuse. Au ministère, elle adopte une hygiène de vie rigoureuse, plus une goutte d'alcool, du yoga chaque jour et de la méditation. Elle a été blessée et le dit, qu'on dénonce des subventions jugées abusives à Actes Sud ou encore un risque de conflit d'intérêts avec le milieu de l'édition, sans parler de ces fameuses mezzanines hors normes, qui ont fait couler beaucoup d'encre. Dans le livre, l'éditrice millionnaire se défend bien, elle est convaincue et on est plutôt enclin à croire son honnêteté. Et après tout, qu'Actes Sud, de grandes maisons de littérature, notamment étrangères, installées à Arles et bénéficiées d'importantes subventions, est tout à fait justifié. Actes Sud est une maison d'intérêt général. À la lecture de ce livre, écrit comme un plaidoyer, on sourit quelquefois. Par exemple, lorsque Françoise Nyssen écrit, je la cite, que la marge de manœuvre dont je disposais était quasi nulle. Ou quand elle tente de justifier son annonce, ridiculisée par tous, de faire circuler la Joconde. Souvent, elle dit qu'elle n'a pas compris, qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Heureusement pour nous, elle rend à plusieurs reprises un bel hommage à France Culture. Merci pour nous. Françoise Nyssen a été beaucoup critiquée, y compris sur cette antenne et même dans cette émission. On oublie souvent, lorsqu'on critique l'action d'un ministre, que derrière la politique, il y a une personne, derrière, il y a un être humain qui peut être blessé. De cette blessure, Françoise Nyssen a fait un livre. Je retiendrai finalement sa passion pour ça, pour les livres, du moins pour ses propres livres. On est surpris en effet que la ministre cite majoritairement des auteurs d'Actes Sud dans son propre ouvrage. Paul Auster, Nina Berberova, Edgar Morin et Nancy Huston, Henri Mandras et le grand Alaa Al-Aswani ou même Nicolas Mathieu, un peu comme si Rimbaud, Shakespeare ou Dostoïevski n'existaient pas tant qu'ils ne sont pas publiés ou traduits par sa maison d'édition. Et lorsque j'ai lu le chapitre 32 de son livre, qui construit sur le mode du « Je me souviens » de Georges Perec, j'ai commencé à douter. Le chapitre est médiocre, bien sûr, car n'importe quel auteur sans talent pourrait aligner ainsi ses « Je me souviens ». Mais Françoise Nyssen nous surprend d'abord agréablement. Au lieu de citer Perec en modèle, elle cite L'air de rien, le jeu me souvient de Joe Brainard. On sait rarement en France que Pérec a plagié, du moins emprunté sa grande idée à Joe Brainard, qui avait créé avant lui C'est I Remember. Même si Pérec a eu la délicatesse de le citer au début de son propre livre, édité à l'époque chez POL, puis chez Hachette et plus récemment chez Fayard. On se dit alors que Françoise Nyssen est lettrée et qu'au lieu de citer Pérec, comme n'importe qui, elle cite Brainard. C'est habile et original, on l'aime davantage pour ça. Hélas, notre plaisir ne dure pas quand on découvre justement que l'éditeur français de ce Joe Brainard n'est autre Acte Sud. C'est un détail bien sûr, mais le diable, on le sait, se cache dans les détails. Françoise Nyssen était une ministre qui aimait les livres, une éditrice et maintenant une essayiste qui nous dit aimer les livres, mais qui aime d'abord les seuls livres qu'elle édite et qu'elle veut nous vendre. C'est peut-être ici que réside fondamentalement le problème Nyssen. Françoise Nyssen, Plaisir et nécessité, chez Stock.
Georgia on my mind, ain't nobody left behind. It's just me, my team, my weed, my babies out and parked outside. Call my mom and let her know that everything is alright. I got Georgia on my mind, ain't nobody left behind. It's just me, my team, my weed, my babies out and parked outside. Call my mom and let her know that everything is alright.
Houston, Texas. My teachers had weapons, I get my ass whipped, I learn my lesson, I often question, I often wonder, if I taught this class, I like the nigga that sit in the back, how bad would it make me suffer? Smoking fuck, we high as hell, we don't love each other, we let the night derail, only time will tell, I'm under your spell, I lay on your chest, you wonder what's next, I love when you breathe and make me reflect.
En écho à Tyler, The Creator, que nous avons écouté récemment dans cette émission, le rappeur Kevin Abstract, à l'instant lequel s'inscrit dans le même mouvement qui fait du hip-hop bien plus qu'un genre musical, mais aussi un style, un mode de vie, une attitude. Tyler, The Creator et Kevin Abstract partagent d'ailleurs une même filiation. Tous les deux sont ouvertement gays et en parlent dans leur rap, ce qui est rare, et en tout cas reste rare dans le hip-hop noir américain. Et tous les deux flirtent aussi avec la pop, certains titres du troisième album solo de Kevin Abstract ayant d'ailleurs été réalisé avec la complicité du producteur et auteur pop Jack Antonoff. À l'instant, c'était Georgia de Kevin Abstract.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Marie-Laure Denis est la présidente de la CNIL. Alors la CNIL, c'est la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, un organisme assez bien connu en fait en France et des Français, créé en 1978 sous Valéry Giscard d'Estaing et dont le statut en fait est celui d'une autorité administrative indépendante, pour parler du statut légal, c'est comme ça qu'on les appelle. Depuis le 2 février, la CNIL est présidée et dirigée donc par vous, Marie-Laure Denis, qui a succédé, vous avez succédé à Isabelle Falque-Pierrotin. Rebonsoir. Madame.
Bonsoir.
Alors, je vais prendre juste un exemple parmi d'innombrables exemples, mais on a lu ces derniers jours que la CNIL venait d'infliger, début juin, 400 000 euros d'amende. Alors un administrateur de biens qui s'appelle Sergic, c'est pas en soi le sujet de cette émission, mais ça nous permet de comprendre comment ça fonctionne. Partons de cet exemple pour expliquer un peu comment travaille la CNIL. Vous avez découvert des fiches de paie, des avis d'imposition, des pièces d'identité que des locataires qui voulaient louer un appartement auprès de cet administrateur de biens avaient donc donné. Des pièces d'ailleurs sans doute certaines étaient illégales, qui avaient été réclamées pour pouvoir louer un appartement, sauf que cet administrateur de biens les avait conservées, des milliers de documents de candidats qui se sont accumulés dans les serveurs de cet administrateur de biens et qui, problème supplémentaire, se sont retrouvés en accès libre à la suite d'un défaut de sécurité informatique. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez su tout ça? Comment vous avez enquêté et comment vous avez sanctionné?
Alors, je ne sais pas, étant arrivé il y a 4 mois, c'était probablement le fait générateur du litige était probablement antérieur.
Bien sûr,
une plainte ou si la CNIL s'est auto-saisie, elle peut faire les deux en tout état de cause. Si ça a donné lieu à des contrôles sur place ou des contrôles en ligne, nous pouvons également faire les deux. Ce qui est certain, c'est que la CNIL est dans son rôle veillant à ce que des données, et a fortiori des données qui sont sensibles, vous venez de les indiquer, ne se retrouvent pas dans la nature. Et elle est très attentive à ce que un certain nombre de principes soient respectés, c'est-à-dire que les responsables de traitement de données ne collectent que les données qui sont nécessaires à la finalité de leur traitement, que pour la durée de ces traitements et de façon proportionnée.
Mais vous avez la possibilité, par exemple, d'aller chez une entreprise, quelle qu'elle soit, d'ouvrir les ordinateurs, de demander les clés, d'ouvrir les coffres-forts. Quel est votre pouvoir d'action dans ces cas-là?
À l'inverse d'autres autorités administrative indépendante et comme par exemple l'autorité de la concurrence, nous avons un pouvoir d'enquête. Effectivement, nous pouvons nous rendre sur place sans prévenir et comme vous le dites, regarder concrètement les ordinateurs, ce qu'il en est des mesures de sécurité, s'il y a de la vidéosurveillance et dans quelle mesure elle surveille pas trop scrupuleusement les salariés. Voilà, c'est le genre d'enquête qu'on peut mener effectivement sur place et la sanction que vous avez évoquée, c'est la deuxième sanction mise par la CNIL depuis la mise en œuvre du RGPD, le fameux règlement général sur la protection des données sur lequel on reviendra peut-être. La première était au mois de janvier, une sanction plus significative encore de 50 millions d'euros contre Google pour défaut d'information de transparence. Et là, Sergic, 400 000 euros pour une PME, certes importante, mais à qui on avait demandé, parce que on n'agit pas non plus sans discernement. On est sensible naturellement à la taille de l'entreprise. Notre but n'est pas...
Vous mettez des avertissements?
Oui, tout à fait. En général, on met en demeure, on adresse une mise en demeure, on souligne les manquements auxquels il nous paraît devoir être remédié rapidement. Et en l'espèce, cette entreprise, au bout de plusieurs mois, ne s'était toujours pas mise en conformité. Et donc là, en l'espèce, c'est la formation restreinte de la CNIL, à laquelle je ne participe pas, qui est composée de 6 personnes de la CNIL, dont des magistrats d'ailleurs, qui a infligé cette sanction.
Les entreprises peuvent faire appel dans ces cas-là?
Oui, elles peuvent faire appel auprès du Conseil d'État. Tout à fait.
Donc vous pouvez être dans ce cas-là confirmé ou votre décision peut être annulée?
Modifier, invalider sur le montant de la sanction.
On est dans un état de droit.
On est dans un état de droit, fort heureusement, et nous essayons naturellement d'avoir des sanctions lorsqu'on en a qui sont proportionnées aux manquements. Et à la fois, il peut y avoir des sanctions beaucoup plus importantes maintenant quantitativement, puisque le règlement dont je parlais permet de monter jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise. Là, c'est nettement moins de 1% ou entre 0,5 et 1%. Parfois, une sanction de 10 000 euros, par exemple, dans un cabinet dentaire, peut, en quelques mois, conduire à mettre en conformité, par un effet boule de neige, toute une profession. Donc notre but, c'est pas de taper fort pour faire un coup d'éclat, mais c'est, dans des situations différentes, d'attirer l'attention de secteurs entiers sur la nécessité de se mettre en conformité.
Marie-Laure Denis, vous êtes la présidente de la CNIL. On va parler de la CNIL et de son avenir, du RGPD et de où on en est un an après. On évoquera la donnée comme enjeu éthique, pardon. On commence avec la donnée comme enjeu de pouvoir. Gilles Fontaine.
Oui, bonsoir Marie-Laure Denis. Vous arrivez, je ne sais pas si c'est un bon ou un mauvais moment, en tout cas c'est un moment important. Les fameux GAFAM, Google, Amazon, Apple, Facebook et autres, après avoir été poursuivis depuis maintenant 2 décennies, plus pour leurs pratiques anticoncurrentielles, aujourd'hui sont dans le viseur de pas mal de régulateurs pour leurs pratiques justement vis-à-vis de la protection de la vie privée et de la données personnelles. Par rapport à ces GAFAM, j'imagine que le rapport de force n'est pas le même, les moyens de pression non plus, les pouvoirs de sanction est également différent. J'imagine qu'on ne sanctionne pas, vous l'avez dit, un cabinet dentaire comme on peut sanctionner un Google ou un Facebook. D'abord, quel est vous êtes arrivé il y a peu de temps, vous l'avez dit, et vous avez dit que vous alliez taper assez fort et avec plus de fermeté sur les entreprises qui ne respecteraient pas la régulation. Alors, quelle est aujourd'hui votre analyse sur le comportement de ces géants de l'Internet américain? Comment établissez-vous justement aujourd'hui la qualité de ce rapport de force, parce que c'est un rapport de force finalement, les moyens de pression, et puis est-ce que le pouvoir de sanction est suffisant aujourd'hui par rapport à ces grandes entreprises?
Alors, on tape fort, mais en même temps, juste en incidente, on essaye aussi d'accompagner les entreprises en leur fournissant beaucoup d'outils et beaucoup de pédagogie.
Vous expliquez à Google comment ça marche.
Je pense que Google est suffisamment équipé.
Alors, non, mais ça, c'est juste une incidente. Oui. Mais sur les GAFAM, je crois qu'ils ont tous les moyens, effectivement, voilà, de se mettre en conformité s'ils le veulent. Et probablement ont-ils d'ailleurs des pratiques qui, je ne sais pas si on peut les globaliser en un seul terme. Je pense que chaque entreprise a peut-être des spécificités. Et puis, il y a ces mastodontes américains. Il y a aussi les mastodontes chinois, par exemple, ou autres. Mais est-ce qu'on a les moyens d'agir contre les GAFAM? D'abord, comme vous l'avez souligné, Gilles Fontaine, je crois que depuis quelques années, quand même, il y a beaucoup de leviers qui ont été utilisés. Droit de la concurrence, vous l'avez dit, avec des amendes records, par exemple, contre Google, infligées par la Commission européenne, notamment. Des débats sur la fiscalité, on l'a vu. Le droit d'auteur... des initiatives en matière de régulation de contenu, fake news, contenu haineux. Et le RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données, qui est un règlement européen, a quand même cette vertu quasiment inédite dans l'Union européenne d'avoir un caractère extraterritorial, c'est-à-dire de jouer le même jeu, en réalité, que jouent d'autres pays envers nous. C'est-à-dire que même des entreprises qui n'ont pas nécessairement de siège en France, mais qui utilisent les données des citoyens européens se voient appliquer ce règlement et toute la bulle de protection qui va avec. Alors, est-ce que c'est un règlement anti-GAFAM ? Non, mais comme le Règlement général sur la protection des données est assis un peu sur la notion de risque, naturellement, les risques sont plus élevés quand vous vous adressez à Facebook qui... potentiellement s'adresse à un tiers de l'humanité et à 550 potentiellement citoyens européens que à d'autres responsables de traitement. Et comme je l'ai évoqué, 4% du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise qui est maintenant le montant maximal que peuvent sanctionner les autorités de protection de données dans les différents pays européens, ce sont naturellement des chiffres significatifs. Alors on dira toujours c'est pas assez ou c'est trop, mais en tout cas avant ça n'était pas du tout ça. Et puis il y a un côté en plus name and shame qui est plus important.
4% du chiffre d'affaires mondial, c'est beaucoup. 50 millions d'euros pour un Google, c'est pas beaucoup.
Oui, c'est pas beaucoup, mais parce qu'en l'espèce, le montant de la sanction que vous évoquez qu'a infligé la CNIL au mois de janvier, elle correspondait à une enquête précise, la création d'un compte sur Android en France, voilà, et tout ça a été proportionné. Il ne s'agit pas non plus, parce que c'est un très gros acteur, d'agir en dehors du cadre juridique qui doit être le nôtre. Ensuite, il y a la portabilité des données, qui est un droit nouveau issu du RGPD. C'est-à-dire que vous pouvez demander à avoir les données qui sont utilisées par un responsable de traitement pour le transférer à un autre responsable de traitement ou pas le transférer. Et d'ailleurs, même pour des choses utiles, que vous jugez utiles, de la recherche par exemple. Ou, voilà, c'est ce qu'on appelle un peu aussi la portabilité citoyenne. Donc ça, c'est une façon aussi, c'est un outil ou un instrument pour être moins captif d'un réseau. Donc ça, c'est une arme supplémentaire. Il y a une autre arme ou un autre outil, ce qui est peut-être plus adapté comme vocabulaire, pour contrecarrer la puissance des GAFA. Ce sont, et c'est aussi une nouveauté du RGPD, les plaintes collectives. Maintenant, le règlement européen permet à des associations, notamment, d'être la tête de pont.
Les class action, comme on dit.
Oui, voilà. Et il y a à la fois des actions de groupe envers les tribunaux pour obtenir cette fois-ci une réparation civile d'un d'un préjudice supposé, et puis d'autre part des plaintes collectives qui peuvent être déposées auprès des différentes autorités de protection des données. Donc tout ça pour dire que nous avons des armes nouvelles, ou des outils, je préfère quand même ce terme, des outils nouveaux pour, je crois, être en capacité d'influencer les GAFA en termes de protection des données, enfin dans leur montée en mise en conformité qui est nécessaire, effectivement.
Sandrine Cassini.
Oui, pour rebondir sur ce que vous dites par rapport au RGPD, on a l'impression, de manière un petit peu paradoxale, que finalement ce règlement, il a plutôt renforcé la position des GAFA dans l'univers, dans l'écosystème, parce que ce sont des entreprises énormes, qui ont des moyens énormes et qui ont des compétences qui leur permettent de maîtriser mieux que d'autres, mieux que toutes les PME françaises, ce règlement. Donc, est-ce que vraiment aujourd'hui vous pensez que ce règlement a rempli sa mission et est-ce qu'on n'a pas un petit peu tapé à côté? C'est un peu la question qu'on se pose un an après. On a l'impression que les petites PME, elles ont du mal à se mettre en conformité, c'est-à-dire ça rajoute une couche de complexité qui est quand même pas neutre. On voit bien qu'autour, c'est comme dans toute création de couches complexes, il y a toute une série de petites entreprises qui se sont développées autour pour vendre du conseil. C'est des phénomènes qu'on voit souvent quand il y a des couches administratives qui se créent.
Dont certaines
qui étaient complètement illégales et qui ne servaient à rien, mais vous avez mis en garde contre, mais ça c'était un autre sujet. Mais c'était entreprises de conseil qui ont extorqué beaucoup d'arnaques.
On a saisi la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes.
Marie-Laure Denis.
Tout à fait. Donc, excusez-moi, juste pour finir, voilà. Et vous parlez de la portabilité des données. Je voulais savoir si vous aviez regardé, parce que la portabilité des données, elle est finalement mise en œuvre par Facebook, Google. On peut demander ces données et les transporter ailleurs. Est-ce que vraiment c'est effectif? Et est-ce que d'autres entreprises françaises, parce que c'était un peu ce qu'on nous avait vendu, vous pourrez très facilement retirer vos données de n'importe quel exploitant, on va dire, des données. Aujourd'hui, est-ce que je peux retirer mes données facilement de mon assureur pour aller essayer de vendre mon profil d'assurance facilement à un autre, un concurrent, par exemple?
Marie-Laure Denis.
Merci beaucoup. Alors, que le RGPD soit complexe, que ça ajoute des contraintes supplémentaires, que ça puisse être coûteux, que ça mobilise des énergies qui sont variées, en plus, c'est peut-être ça la complexité, c'est-à-dire à la fois des informaticiens, des juristes. C'est un sujet, c'est vrai, qui doit être porté au niveau de la gouvernance, finalement, d'une entreprise, même d'une petite entreprise, parce qu'il y a des enjeux, et parce qu'il y a même des enjeux de réputation, et parce que ce qui est important, quand même, dans l'économie numérique et son développement, si on veut qu'il soit soutenable, c'est la confiance. Et le RGPD, pour une petite entreprise, la mise en conformité des données, on a cité un exemple tout à l'heure, c'est aussi important pour sa viabilité peut-être que pour un très gros opérateur qui aura peut-être d'autres avantages à faire valoir. Ensuite, je pense que quand vous dites est-ce qu'on n'a pas tapé à côté, je crois que le RGPD favorise aussi, contrairement à ce qu'on peut penser, une certaine innovation d'entreprise ou de start-up. Nous, on est en contact avec très régulièrement avec environ 150 start-up qui précisément essayent de développer tout ce qui favorise la protection de la vie privée, y compris, comme on dit maintenant, le privacy by design, c'est-à-dire dès la conception des interfaces, par exemple. Les développeurs essayent ou doivent essayer de prendre en compte de plus en plus ces aspects de protection de la vie privée. Donc, je crois pas qu'il faut opposer les petits et les grands. Et au contraire, à côté de grosses entreprises pour lesquelles la confiance qu'on a dans la collecte de données n'est peut-être pas tout à fait avérée, il peut y avoir des alternatives utiles en matière de protection des données. Et sur la portabilité, c'est un nouveau droit. Et alors ça, c'est toute la difficulté, effectivement, et je pense que c'est tout l'enjeu pour la CNIL, si 70% des Français se disent plus sensibles qu'avant, alors avant, c'est quelques mois avant, quelques années avant, à la protection de leurs données, il y en a quand même un certain nombre qui ne savent pas des choses très concrètes qui peuvent, enfin, qu'ils ont le droit d'être informés sur l'utilisation de leurs données, qui doivent, dans la plupart des cas, donner leur consentement à l'utilisation de ces données, qui peuvent s'opposer à un certain nombre de prospections commerciales ou autres, et donc c'est, et y compris celui de la portabilité des données. Donc peut-être que le premier enjeu pour nous, c'est l'effectivité des droits tels que, et celui entre autres de la portabilité que vous évoquiez.
Zoé.
Alors juste, je vais continuer la question de Sandrine, en fait finalement élargir avant peut-être qu'on parte à la question éthique, mais les deux sont liés. Effectivement, vous l'avez dit, hein, presque un soft power du RGPD qui séduit même outre-Atlantique. Le but effectivement dès le début, c'était à la fois de sensibiliser des gens qui parfois n'étaient même pas conscients du fait qu'ils donnaient leurs données et par ailleurs de développer effectivement cette logique by design, c'est-à-dire dès le début au lieu de corriger le penser autrement. Mais j'élargis un peu la question, est-ce que la question de la vie privée, comme certains penseurs du web le disent, Yevgeny Morozov, ou inversement Gaspard Koenig, qui lui de l'autre côté est complètement libéral. Est-ce que la question de la vie privée, elle n'est pas finalement complètement annexe, voire même plus pertinente aujourd'hui, quand on comprend la place que la donnée va avoir et a déjà dans l'économie de demain, de manière presque mondiale? Est-ce que cette question de la vie privée, finalement, elle n'est pas caduque? Gaspard Koenig fait partie des gens qui préconisent que parfois, qu'aujourd'hui, dans une version très libérale de cette économie numérisée, on puisse par exemple être détenteur de ses propres données et finalement les vendre au plus en franc. Inversement, quelqu'un comme Yevgeny Morozov considère que pour qu'on soit disons une conception économique pas trop catastrophique, il faut établir le principe de la souveraineté des données, les données aux États ou autres. Est-ce que finalement ce combat de la CNIL, il n'est pas un peu à côté de la plaque, au sens où la vie privée n'est pas le domaine le plus important dans cet enjeu de la reconversion de la société vers une société numérisée, on va dire?
Là où je vous rejoins, c'est qu'il y a un certain nombre d'individus qui s'exposent sans avoir conscience, effectivement, de la traçabilité qui est faite de leurs données à des fins de ciblage publicitaire, puisque les entreprises dont vous parlez, leur business model, leur modèle économique, c'est précisément de vendre de l'attention, du temps de cerveau disponible, comme auraient dit avant certains responsables de chaînes de télévision, à des fins de ciblage publicitaire.
C'est-à-dire que Facebook n'est pas gratuit. En tout cas, Facebook est gratuit, mais vous leur donnez, vos données.
Et c'est vrai que certains parlent des travailleurs du clic, en quelque sorte, d'où la question qui peut être posée de la propriété des données. Nous, à la CNIL et en Europe d'une façon générale, on est très attachés à ce que les données ne soient pas accessibles, parce qu'on pense que c'est un peu un marché
de dupes. Oui, mais en même temps, c'est leur modèle économique. Ouais. Donc, c'est une bataille quasiment perdue d'avance, à moins qu'ils n'existent plus. Parce qu'ils vivent de ça. Vous leur enlevez les données, il n'y a plus de Google, il n'y a plus de Facebook, il n'y a plus d'Amazon.
Il n'y aura pas de géant européen non plus de l'Internet, puisque c'est vraiment le modèle, effectivement,
Juste pour compléter là-dessus, on voit bien aux États-Unis ce renforcement des données. Par exemple, quand vous allez aujourd'hui sur le Washington Post, on vous propose trois types d'abonnements. Un complètement gratuit, un mi-gratuit, mi-payant et un entièrement payant. C'est dans le cas où vous refusez qu'on exploite vos données. Donc, en fait, est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre ce qu'on propose et le modèle économique de l'Internet et de tout un tas de services qui s'est développé justement sur cette exploitation-là ? Et là, le RGPD, ça a créé quoi pour l'utilisateur final ? Aujourd'hui, on est envahi sur n'importe quel site, on ne parle même pas des GAFA, mais sur n'importe quel site où vous allez, vous cliquez votre consentement pour accéder à un site. Est-ce que ça veut dire pour l'utilisateur qu'il donne un consentement éclairé quand il a des pages et des pages à lire, il n'a pas du tout envie de lire, il a envie d'accéder au service.
Et puis s'il dit non, il ne peut pas avoir accès à son journal. Non, donc.
Ou alors aux États-Unis, il paye.
Après, pas sur tous les sites.
Il y a une espèce de décalage.
Marie-Laure Denis, comment vous réagissez sur ces problèmes?
Alors, il y a beaucoup de questions en peu de temps. Sur des sujets qui sont quand même...
C'est l'exercice, vous avez 30 secondes.
Voilà, merci, je vais m'y essayer alors. Vous avez souligné qu'effectivement, je pense qu'il faut veiller à ne pas aller vers un Internet à deux vitesses, un Internet faussement gratuit en quelque sorte, où on moissonne vos données et on les transmet à des tiers, et puis un Internet payant qui lui serait un peu pur parce que vous avez les moyens de refuser en quelque sorte qu'on exploite votre donnée. Mais donc, tout justement toute la philosophie du RGPD, c'est pas est-ce que vous voulez vendre vos données, c'est est-ce que vous êtes d'accord pour l'usage qui va être fait de vos données. Et le consentement, je suis d'accord avec vous, le consentement, il est pas comme le souhaite éclairé. Il est pas nécessairement comme le souhaite le RGPD, libre avec une alternative éclairée, explicite, etc. C'est tout le sens de la sanction Google.
Justement, est-ce qu'il faudrait pas clarifier un petit peu le dispositif et le faire évoluer?
Mais alors précisément, moi j'ai réuni à leur demande d'ailleurs les professionnels de la publicité le 25 avril dernier, et on va travailler avec eux, on va adopter des lignes directrices, nous à la CNIL, en juillet vraisemblablement, et travailler avec eux pendant 6 mois sur justement la gestion des cookies, c'est-à-dire ces traceurs qui sont déposés sur vos téléphones portables, sur vos tablettes, sur vos ordinateurs, et qui permettent de faire ce ciblage publicitaire et d'utiliser des données, vous ne savez pas voilà, où elles vont, comment elles sont collectées, comment les gens...
Elles peuvent être revendues à des tiers, qui vont les revendre à des tiers, etc.
Donc, justement, le RGPD a les outils pour essayer d'obtenir un consentement plus libre et éclairé de ce point de vue-là. C'est un exemple parmi d'autres. Sinon... Quand même, vous évoquez une sorte de défaite mondiale, hein, si je résume, une capitulation, mettons, mondiale par rapport à la protection des données. Moi, j'ai fait 2 déplacements à l'étranger depuis que je suis à la CNIL, et c'est pas du tout ce que j'ai ressenti. On aura peut-être l'occasion d'en dire un mot, je sais pas.
Vous voulez dire qu'en Californie et chez Alibaba en Chine, tout le monde se dit, attention, Marie-Laure Denis arrive, et ils sont terrorisés. Google se méfie désormais.
Il me reste un peu de lucidité quand même, je vous rassure, Frédéric Martel. Mais même malgré la chaleur, mais en tout cas, la Californie a adopté une loi sur la protection des données qui devrait rentrer en vigueur au mois de janvier prochain, dans le berceau de la Silicon Valley,
qui s'inspire du RGPD européen
et qui s'est inspiré, qui est pas un copier-coller, mais qui s'est quand même inspiré très largement du RGPD. Les Américains sont en train de réfléchir à une loi fédérale sur la protection des données. Alors peut-être pour qu'elle soit moins exigeante, d'ailleurs, que la loi californienne.
Puis il y a aussi des organismes de régulation, on le sait, la FTC, la FCC, le département d'État, le département of justice, voilà, qui est le ministère de la justice, etc.
Donc je ne suis pas du tout d'accord avec cette analyse que les différentes instances de régulation, y compris mondiales, concurrence ou autre, protection des données, aient capitulé au contraire par rapport à la protection des données.
Gilles Fontaine.
Alors, j'avais une question, on va sortir un tout petit peu de ce débat sur le RGPD et la gestion de la donnée personnelle, mais malgré tout, c'est un enjeu qui est probablement encore plus fort, celui de la reconnaissance faciale. En Europe et en France en particulier, pour le moment, il n'y a pas de débat, puisque on a dit à peu près non, il y a une pression assez forte, hein, des géants de l'Internet américain et chinois. Tous les téléphones chinois sont aujourd'hui sont équipés, quand on les achète, d'un outil de reconnaissance faciale qui est bien plus efficace que la reconnaissance d'empreintes digitales. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce qu'il faut ouvrir le débat? Est-ce qu'il faut réguler et autoriser certains acteurs effectivement à avoir recours à ce type de reconnaissance? On dit que finalement la reconnaissance faciale sera probablement ce qui remplacera un jour nos fameux mots de passe qui peuvent être de plus en plus facilement décodés et qu'on retrouve éventuellement sur le dark web d'ailleurs et qui peuvent être utilisés par des hackers. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce que vous en discutez avec vos homologues européens et avec les géants de la high-tech, qu'ils soient américains ou asiatiques?
Ah, c'est vrai que sur la reconnaissance faciale, il y a une tendance à un plus de reconnaissance faciale. Dans certains pays, on le sait très bien, en Chine notamment, avec un modèle qui peut aller ou qui va dans des proportions
bien au-delà de George Orwell.
Voilà, vers un certain contrôle social.
On paye avec son visage en Chine aujourd'hui. C'est quand même.
On rentre aussi en France, vous le savez sans doute, Marie-Laure Denis, on rentre aujourd'hui en France avec de la reconnaissance faciale dans un certain nombre d'aéroports, notamment Charles de Gaulle, dès lors qu'on utilise des passeports de type paraf.
Biométrique, voilà, avec un dispositif paraf, effectivement, qui est assis sur un texte, qui présente un certain nombre de garanties. Donc, la CNIL, on en parle beaucoup au sein du collège de la CNIL, parce que c'est une instance collégiale, hein, de 18 membres. On n'est pas hostile par principe à la reconnaissance faciale, qui peut présenter des intérêts en termes de sécurité publique, pour retrouver les auteurs d'un attentat, ou plus simplement notamment pour authentifier, pour gérer les flux, par exemple, dans les aéroports ou autres. Simplement, la reconnaissance faciale, elle se fait à partir d'éléments biométriques, donc c'est vraiment votre identité. C'est quelque chose quand même d'extrêmement intrusif, en ce sens où si, en termes de sécurité, si vous perdez votre mot de passe ou si vos données bancaires sont piratées, bah, vous remplacerez votre mot de passe et vous remplacerez votre carte bancaire. En revanche, vous ne remplacerez pas une partie de votre identité qui permettra de vous identifier par définition n'importe où dans le monde. Donc il y a quand même des enjeux de sécurité et d'intrusion pour la vie privée qui sont extrêmement importants. Nous, pour dire les choses clairement, il y a des trous dans la raquette en matière sur le plan juridique, parce que les développements technologiques vont plus vite que le droit dans ces domaines. C'est tout l'intérêt de la régulation, justement, que de pouvoir essayer d'apporter des
réponses. Tout le problème aussi de la régulation, c'est que dans un monde où tout s'accélère et la vitesse de l'innovation numérique que vous évoquez, comment est-ce que vous êtes capable de suivre, sans parler des lois et sans parler bien sûr des punitions qui arrivent parfois des années après que ces évolutions numériques ont eu lieu?
Alors je prends un exemple très concret, par exemple à Nice, maintenant la CNIL ne donne plus d'autorisation ou de déclaration, mais on peut lui demander des conseils et elle peut émettre un certain nombre de réserves. Pour le carnaval de Nice, on nous a soumis un dispositif de reconnaissance faciale qui permettait d'accéder pour avec un dispositif de reconnaissance faciale au carnaval, nous on a imposé un certain nombre de garanties. Ces garanties c'était il faut qu'il y ait une alternative, faut que les gens, tout le monde n'est pas obligé de passer par la file de reconnaissance faciale, il faut que les gens donnent leur consentement, qu'ils soient informés, que les durées soient conservées très peu de temps, et ça c'était à des finalités de test d'un dispositif, c'était pas, parce que sinon on n'aurait pas pu l'autoriser pour des raisons juridiques, pour arrêter quelqu'un, etc. Donc on n'est pas contre la recherche, les tests, l'innovation, mais encore une fois, c'est très intrusif. Et ce qu'a fait la CNIL à l'automne dernier, c'est qu'elle a appelé, parce qu'elle considère que ça mérite la reconnaissance faciale et la façon de l'encadrer, quel que soit son intérêt, que ça mérite un débat, que la société s'en saisisse, que les pouvoirs publics s'en emparent. La CNIL a appelé à l'automne dernier à ce qu'il y ait un débat sur ce sujet, qui pour nous est un sujet de société, et je constate que le ministre de l'Intérieur est allé à Nice vendredi qu'il s'est, d'après ce que j'ai lu, dit ouvert à l'ouverture d'un débat sur la reconnaissance faciale. Donc en ce sens, j'espère qu'on aura été un aiguillon à ce stade utile et en tout cas vigilant sur cette nouvelle technologie.
Donc sur cette technologie, vous n'êtes pas fermé, vous êtes plutôt pour une ouverture contrôlée. C'est un peu inexorable comme mouvement, finalement.
Je pense qu'on n'a pas à être pour ou être contre, mais en tout cas, il y a un mouvement et il s'agit de l'encadrer. Voilà, parce qu'il peut être extrêmement intrusif. Voilà. Mais d'une façon générale, la CNIL n'est pas là pour opposer des intérêts qui peuvent être contradictoires, mais apporter, ou sembler contradictoires, mais essayer d'apporter des garanties, en fait.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
France Culture, 19h42. Mon invité ce soir est Marie-Laure Denis, la présidente de la CNIL. Elle est interrogée par Sandrine Cassini du journal Le Monde, Gilles Fontaine de Challenge et Zoé Sfès de France Culture. Alors, on a évoqué le RGPD, on est revenu sur les sanctions et la donnée au fond comme enjeu de pouvoir. On évoquait à l'instant l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale. Prenons peut-être un certain nombre de questions plus lié aux évolutions de ce secteur, notamment. D'abord, c'est un secteur globalisé, c'est un secteur où la France peut dire ce qu'elle veut, mais elle est un petit ensemble, d'un ensemble bien plus grand. Comment est-ce que vous travaillez d'abord avec les autres pays européens, pour commencer, sachant qu'il y a des CNIL ou des équivalents un peu partout en Europe? Ils sont organisés, ils se réunissent. Est-ce que vous avez un moyen de structurer tout ça?
Alors, ce qui est vraiment très nouveau avec le RGPD, c'est qu'effectivement, maintenant, on a... Avant, les CNIL se réunissaient, effectivement, mais elles n'avaient pas un mode de fonctionnement aussi intégré que maintenant. Et moi, très concrètement, je vais à Bruxelles 2 jours par mois. Les équipes de la CNIL, il y a entre 10 et 15 personnes qui sont... à Bruxelles au sein de ce comité européen de la protection des données qui a vocation à édicter des lignes directrices pour accompagner les entreprises, les individus, les entreprises essentiellement et les pouvoirs publics aussi, hein, parce que la protection des données c'est public et privé, pour leur donner les meilleurs outils possibles. Donc déjà on réfléchit ensemble et on propose une lecture, une interprétation concrète du règlement ensemble. Ensuite, il y a un autre thème qui est extrêmement concret, c'est que lorsque les plaintes que l'on reçoit concernent plusieurs pays, plusieurs CNIL. Aujourd'hui, il y a un mécanisme de guichet unique. C'est un plus maintenant pour les citoyens qui n'ont plus
depuis
à s'adresser.
Depuis le RGPD ?
Oui, depuis le RGPD, elles n'ont plus à s'adresser à différentes CNIL. Elles s'adressent à la CNIL qui est dite leader, en quelque sorte, lead, où est le siège en général de l'entreprise. Et on instruit dans ces cas-là ces plaintes entre les CNIL qui sont intéressées par la plainte.
On n'a jamais vu encore de sanctions européennes.
Elles vont arriver, et à mon sens, elles vont arriver. Mmh. Il y a 20% de nos plaintes qui sont instruites de cette façon.
D'accord.
Et notamment la CNIL irlandaise qui focalise
à cause
particulièrement l'attention à cause du siège social
de nombreuses.
Et à cause du régime fiscal, enfin, en tout cas des politiques fiscales irlandaises.
En tout cas, il y a des sièges effectivement qui sont là et l'autorité irlandaise est lead dans un certain nombre d'actions, dont des actions d'ailleurs qui ont été initiées par des plaintes collectives portées par des Français, hein, et qui peuvent embarquer entre guillemets 1000 ou 10 000 plaintes par exemple. Et on a des contacts avec l'autorité irlandaise.
Comment ce monde-là s'organise et s'articule avec ce que fait l'Union européenne ? Je pense notamment à la commissaire européenne jusqu'à présent qui était très active dans sa question de concurrence, Margrethe Vestager. La guerre, vous travaillez avec elle, c'est totalement indépendant, ça peut... Elle aussi, elle met des amendes, comment tout ça s'organise ?
Alors, la Commission européenne, d'ailleurs, a des représentants qui assistent à nos réunions, mais qui n'ont pas un droit de vote, hein, parce que ce sont les CNIL européennes qui se réunissent et qui décident. Donc, en tout cas, il y a une articulation de ce point de vue-là, mais je pense qu'il y a différents leviers qui sont actionnés pour que le numérique soit le plus soutenable et éthique possible. Et la commissaire que vous citez, elle a agi comme ses fonctions la prédisposent dans le domaine de la concurrence, qui n'est pas le nôtre, même s'il y a naturellement des points de
convergence.
Comment
vous distinguez ces deux, donc concurrence d'une part, et puis vraiment défense des droits des citoyens, défense des libertés individuelles ?
Alors, il y a des liens et des recoupements dans la mesure où la donnée étant un élément central naturellement de l'économie aujourd'hui.
C'est à la fois de la concurrence et à la fois de la vie privée.
Voilà, mais il y a plusieurs leviers, au contraire, pour la protection des données, ce sont les CNIL européennes.
Oui. Gilles Fontaine ?
Oui, plus largement, c'est presque une question philosophique, mais on voit bien qu'en Europe, on se bagarre contre des grands groupes qui utilisent la donnée personnelle. On l'a vu pour leur business, que ce soit en Chine ou aux États-Unis, en Europe. Est-ce que justement votre action n'est pas antinomique par rapport au développement d'un grand groupe finalement européen sur Internet qui aurait la publicité comme principal commerce? Puisque, encore une fois, la data, la donnée privée est leur matière première. Comment est-ce que vous conciliez ces deux choses-là ? Est-ce que c'est une chose que vous avez à l'esprit ? Encore une fois, c'est très philosophique. Il n'est pas question d'arriver dans une société comme la Chine où on est filmé en permanence, où toutes nos données sont utilisées, transformées, malaxées par ces grands groupes. Mais finalement, c'est aussi une donnée de vous participez à la création de ce climat concurrentiel.
Mais nous, si je comprends bien votre question, nous on cherche pas à opposer la vie des affaires et la protection de la vie privée. En quelque sorte, on pense que la vie des affaires se portera d'autant mieux qu'elle intégrera les questions de protection de vie privée auxquelles les gens, quoi qu'on en dise, sont de plus en plus sensibles. Il y a quand même eu un certain nombre de scandales. On a évoqué à un moment l'éthique tout à l'heure. On voit bien que des données de 90 millions d'utilisateurs d'un réseau social ont pu être utilisées pour influer sur des élections ou essayer d'influer sur des élections aux États-Unis ou en Angleterre. On voit bien que nous, les plaintes qu'on reçoit à la CNIL, un tiers des plaintes concernent, plus d'un tiers des plaintes, la réputation des gens sur Internet. Donc ils sont pas contents de la façon dont leurs données sont utilisées. Donc je pense que les entreprises qui seront de plus en plus vertueuses en matière de protection des données, et même les numéro 1 des GAFA aujourd'hui appellent en quelque sorte à une loi fédérale aux États-Unis ou au respect de la vie privée, auront un avantage concurrentiel.
Une question sur la santé, Zoé.
Oui, parce que là on parle des GAFA, on parle des États-Unis, on parle des grands groupes, des médias sociaux, de ces économies qui reposent sur l'attention et donc sur les données. Mais il y a un secteur en France où d'ailleurs il y a de gros acteurs français qui sont leaders européens, c'est le secteur de la santé. Je sais que la CNIL s'était opposée à l'existence du fameux dossier médical partagé. Enfin, en tout cas, vous aviez mis en garde plusieurs fois contre ça. On a beaucoup d'oracles, Cassandre ou Tiberias, qui aujourd'hui nous disent que, et d'ailleurs, il y a eu un gros accord entre Sanofi et Google la semaine dernière sur cette question, l'avenir est à la médecine prédictive, où on aura en gros une alliance entre les assurances, des gens qui collectent vos données, des groupes pharmaceutiques. Et là, il y a des acteurs français majeurs, très importants dans ce système-là. Quelle place vous pourriez avoir, vous, là-dessus ? Est-ce que ce système de la médecine prédictive, où en fait, on se soigne quasiment intégralement par la donnée, voire presque on est responsable de sa propre bonne santé, quel rôle vous pourriez jouer là-dedans, vous ? On n'est même plus sur de la vie privée, là, on est carrément au-delà. Est-ce qu'il ne faut pas, une métamorphose, voire une montée en puissance d'autorité comme la vôtre ? J'imagine que vous allez me répondre oui, mais bon.
Oui, merci. Alors d'abord, bon, par exemple, il y a eu un projet de loi sur la santé. Il y a un élément d'activité de la CNIL qui est peu connu à l'extérieur, c'est qu'on rend des avis sur les projets de décret et les projets de loi. Et par exemple, l'année dernière, on en a rendu 120. C'est quand même pas rien, tant la donnée est maintenant transversale, que ce soit Parcoursup, la création du Health Data Hub. Et effectivement, dans le domaine de la santé, il y a un intérêt à ce que de plus en plus de données soient utilisées pour faire un certain nombre de pronostics.
Pour faire de la recherche.
Pour faire de la recherche, etc. Donc,
en même temps, vous tapez sur la sécurité sociale très souvent en disant qu'ils gardent très très mal nos données.
Oui, mais en fait, tout ça n'est pas antinomique. Ouais. Et on est très attentif à la sécurité des données, effectivement. Et toute violation de données doit nous être notifiée maintenant sous 72 heures, etc. Mais j'ai vu effectivement l'accord ou le renforcement de l'accord probablement entre Google et Sanofi. Mais vous avez évoqué la médecine prédictive et donc l'utilisation d'algorithmes. Nous, on a aussi à la CNIL un rôle d'éclaireur, de rendre plus lisibles des écosystèmes qui sont complexes. On a une équipe d'expertise technologique qui, je crois, est réputée et fait des choses utiles. Et on a mené toute une réflexion à la CNIL sur les algorithmes et l'intelligence artificielle en 2017-2018. Et on en a dégagé un certain nombre de principes en ce qui concerne les algorithmes. On pense qu'il doit y avoir une transparence aussi lisible que possible sur l'utilisation de ces algorithmes, qu'il doit y avoir une intervention humaine aux différentes étapes de la chaîne et que les choix fondamentaux doivent relever d'un décideur qui soit pas une machine. Par exemple, on peut comprendre que pour affecter 800 000 bacheliers dans 13 000 formations, ça soit utile d'utiliser des algorithmes. Mais est-ce que la société a accepté et les pouvoirs publics aussi ont dû évoluer par rapport au fait que c'était une machine par tirage au sort qui, dans les filières sous tension, affectait des bacheliers.
Le Parcoursup, là, particulièrement.
Pour Parcoursup, mais la même chose est valable pour la santé, a fortiori, qui est considérée comme une donnée sensible au sens du règlement européen pour laquelle on est particulièrement vigilant.
C'est hyper intéressant ce que vous nous dites. Vous dites que vous avez ce pouvoir effectivement de conseil, etc., que vous êtes pour la transparence des algorithmes. Question un peu violente, ça donne quoi concrètement ? Qui vous écoute ? Est-ce que vous avez un pouvoir, on va dire, sanctionnant ou impératif ? Tout ça, ça reste consultatif.
Là, c'est des avis. Oui.
Et les avis, ça reste consultatif.
C'est beaucoup de pédagogie. Alors, les avis restent facultatifs. Consultatif. Cela dit, quand nos avis sont publiés, c'est le cas.
Les députés peuvent s'en emparer lors du débat.
À l'occasion de la publication. Nos avis sont publiés au moment de la publication des décrets et des lois. par définition, on est les seuls à avoir un regard extrêmement attentif sur la protection de la vie privée, même si d'autres instances l'ont, le Conseil d'État, etc. Mais un avis expert, et je peux vous dire que les avis de la CNIL, j'ai la faiblesse de penser, alors suivi peut-être pas toujours, mais en tout cas j'ai la faiblesse de penser qu'ils sont utiles, voilà, et écouter et participent au débat public, justement.
Une dernière question peut-être, Gilles Fontaine.
Juste une question par rapport...
Une à chacun, mais très rapidement.
Une question, oui, non, mais concrètement, vous parliez de vos discussions avec les représentants des GAFAM, on avait commencé par là tout à l'heure. C'est des enfin, qu'est-ce que vous racontez en gros? Est-ce que on a l'impression, effectivement, que vous l'avez dit, que les gens, les citoyens français sont de plus en plus quand même concernés, comme disent les Américains, inquiets de ce qu'on fait de leurs données personnelles. Quelle est la nature du... Enfin, sans violer des secrets de professionnels de...
Non, mais il n'y a aucune violation de secret, en ce sens où on a les contacts avec les GAFA qu'on a, aussi curieusement que ça puisse paraître, avec d'autres entreprises qu'on accompagne. On n'a pas un sort GAFA particulier, ou alors il faut répondre de façon plus globale sur les GAFA en disant que la CNIL, qui a une antériorité en Europe sur ces questions, puisque vous l'avez rappelé, elle a 40 ans, ou l'Europe maintenant, qui a une voix sur la protection des données, qui porte réellement à l'étranger. Moi, j'étais au Japon, par exemple, invité par les conférences asiatiques, par les CNIL asiatiques. Il va y avoir un G20 à la fin de la semaine prochaine sur les GAFA. Il est tout à fait possible que pour la première fois, dans une déclaration d'un G20, il y ait des déclarations sur la protection des données. Et donc, on parle aux GAFA par RGPD interposé, si j'ose dire. Il y a un standard européen maintenant qui est très exigeant et dont les autres pays et les entreprises, les grandes entreprises des autres pays sont obligés de tenir compte.
Une dernière question, Sandrine Cassini, très brièvement.
Juste pour revenir sur les algorithmes, vous en parliez, je pense que c'est quand même le sujet d'avenir. Est-ce que vous travaillez, jusqu'où peut essayer cette transparence, et est-ce que vous travaillez sur les biais des algorithmes? Parce que c'est quand même une grande question avec l'intelligence artificielle, c'est est-ce qu'on transmet nos propres biais cognitifs à l'algorithme, à savoir l'algorithme va favoriser plus
des hommes blancs.
Les hommes blancs de 40 ans plutôt que les femmes ou...
Oui, bien sûr, on travaille sur les biais et on essaye justement de les mettre en valeur, les mettre en valeur pour les contrer, par définition, en tout cas. Prenons un exemple très concret. C'est-à-dire un algorithme, il doit aider à la prise de décision, mais pas prendre la décision nécessairement à la place de... Finalement, c'est une succession d'étapes pour prendre une décision. Une tarte aux pommes, une recette de tarte aux pommes, c'est un algorithme, en quelque sorte. La justice, si on prend 50 années de jurisprudence pour aider le juge à prendre une décision, mais qu'on se fonde sur la jurisprudence pénale aux États-Unis depuis les années 50-60, il y aura un biais racial, par exemple. Si, en matière de RH, pour un recrutement, en termes de salaire, on prend les salaires déjà existants entre les hommes et les femmes, on dupliquera effectivement les différences de traitement existants. Donc il faut rendre lisible tout ça pour qu'il y ait des interventions humaines et qu'on ne soit pas les victimes nous-mêmes de la machine et de ceux qui auront entraîné l'algorithme en quelque sorte.
Ce que nous sommes un peu pour l'instant, mais heureusement la CNIL veille.
Bon, on essaye de veiller.
Merci infiniment d'avoir été notre invité. De toute façon, c'est des sujets sur lesquels on reviendra. On vous réinvitera puisque... Tous les ans, tous les deux ans, c'est des sujets qu'on aime traiter et retraiter avec vous et avec d'autres invités sur ces questions de vie privée. Soft Power, dans un instant, la seconde partie de l'émission avec à 20h10 le Club de la Presse Numérique. Nous parlons ce soir des penseurs du numérique. Et dans un instant, à 20h, vous avez votre invité innovation qui vient de rentrer dans le studio.
Il s'appelle Yves Citon et il co-dirige cet ouvrage Écologie de l'attention, archéologie des médias avec Estelle Doudé qui, disons, pose des gens. Les jalons, disons, théoriques, le cadre de sa pensée théorique assez fascinant et qu'on avait envie de discuter avec vous en cette fin d'année dans Soft Power.
Vous pouvez vous abonner au podcast de l'émission Soft Power, disponible gratuitement sur iTunes, sur la page de Soft Power, sur le site de France Culture, ainsi que sur l'application podcast de votre smartphone. Tout ça à suivre après Sunday Morning du Velvet Underground sur France Culture en direct en ce dimanche soir.
It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all.
À l'instant, le Velvet Underground avec Sunday Morning pour évoquer un livre qui vient de paraître de Chantal Thomas, East Village Blues. On connaît Chantal Thomas comme écrivaine et essayiste. Elle a fait sa thèse sur le Marquis de Sade avec Roland Barthes. Et c'est à cette époque, à la fin des années 70, qu'elle part pour New York et vit en particulier dans le quartier d'East Village. Dans ce livre qui vient de paraître, donc, elle se remémore ses années contre-culturelles américaines entre Alphabet City et Saint Mark Place. Une époque où l'on sortait tous les soirs en quête d'expérimentation au Chelsea Hotel, au Poetry Project ou dans le bar lesbien, le Bonnie and Clyde, dont elle décrit magnifiquement les atmosphères insouciante et hallucinée. À cette époque, on écoutait encore Nico et le Velvet Underground, et on voulait écrire comme Rimbaud, comme Allen Ginsberg dans Hole, et comme les Beats, à l'ombre de Jack Kerouac, qui a d'ailleurs longtemps continué à planer sur la jeunesse new-yorkaise, bien après sa mort en 69, et il plane aussi, sans surprise, sur les pages de ce livre. Retournant aujourd'hui à East Village, Chantal Thomas se désole de ce qui est devenu New York, et cette amertume, cette nostalgie, constitue au fond, au demeurant, la trame de ce livre. Sans doute a-t-elle raison de dire son désamour? La Bowery n'est plus celle de Nan Goldin et les avenues d'Alphabet City ne font plus peur à grand monde. La boboisation de New York s'est faite avenue après avenue, seconde, puis first, puis A, puis B, puis C, puis D. Chacun peut le constater, Times Square s'est Disney-ifié, Brooklyn Park slopisé. Pourtant, la nostalgie n'est, je crois, jamais de bons conseils. Chantal Thomas est arrivée à New York à la fin des années 70, comme un peu en retard d'une contre-révolution, celle des années 60, qu'elle n'a jamais cessé de poursuivre en vain. Car la vie bohème des poètes ne dépend peut-être pas tant des années et des lieux, mais d'un état d'esprit. L'auteur s'acharne d'autant plus à défendre l'âme d'East Village qu'elle a le sentiment d'y être arrivée quand la fête était finie. Chantal Thomas, East Village Blues, vient de paraître au seuil.
France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Svez.
Bonsoir Yves Citon.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous en cette presque fin d'année sur Soft Power. On avait envie de vous recevoir. Vous êtes professeur de littérature et médias à l'université Paris 8. Vous co-dirigez l'excellente revue Multitude, qu'on ne peut que vivement recommander à nos auditeurs. Merci. Et vous êtes surtout l'auteur de plus d'une centaine d'articles et au moins une dizaine de livres. Je ne vais citer que les derniers. Bon, en raison du fait que tout simplement le livre que vous sortez est une belle fusion, ou en tout cas une continuité de la réflexion que vous aviez menée dans, par exemple, Pour une écologie de l'attention, c'était au Seuil en 2014, Contre-courant politique, c'était chez Fayard en 2018, et Médiarchie, c'était au Seuil en 2017. Aujourd'hui, vous co-dirigez avec Estelle Doudet ce livre Écologie de l'attention et archéologie des médias qui vient de paraître aux UGA éditions. Un livre qui, en réalité, donc regroupe toute une série d'articles avec des types d'auteurs très divers, des universitaires, mais pas que, ô combien pas que, et vous y tenez. Ce livre, dans lequel vous livrez une introduction qui, en fait, disons, pose les jalons théoriques de votre cadre de pensée, qui sont assez originaux. Ici, j'ai reçu cette année beaucoup de penseurs ou d'analystes qui dénoncent, ou en tout cas réfléchissent sur cette fameuse économie de l'attention. Nous en parlions à l'instant avec la dame qui dirige la CNIL, cette fameuse économie de l'attention. On parle de celle de, disons essentiellement, des réseaux sociaux qui consistent finalement à capter le plus d'attention possible et toutes vos données et à faire effectivement créer, extraire de la valeur de cela. Vous, vous dites, vous dénoncez l'idée même de parler uniquement d'une économie ou d'une crise de l'attention. Vous dites
dites qu'il faut penser les écologies de l'attention. Qu'est-ce que c'est que l'écologie de l'attention ?
Alors, merci pour l'invitation. Donc, l'écologie de l'attention, c'est un déplacement. C'est de dire que tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur vente du temps de cerveau disponible, etc., sur les données, sur la marchandisation des données, c'est très vrai et c'est absolument important de le comprendre, mais c'est en termes de vente, d'échange, de prix, en termes économiques. Et c'est central. Mais il y a quelque chose d'autre qui est aussi central, on le sait parce que nos sociétés sont en voie d'effondrement, parce qu'on ne pense qu'en termes économiques et on a oublié qu'il y avait des phénomènes écologiques au moins aussi importants. C'est la même chose un petit peu, je dirais, pour l'attention. Il s'agit de se demander comment les milieux attentionnels sont soutenables ou insoutenables. Qu'est-ce que c'est qu'un burn-out ? Un burn-out, c'est pas seulement une information qui vient de trop, c'est un milieu attentionnel qui surcharge ce que le système nerveux humain peut tolérer. De même, qu'est-ce que c'est que l'attention à l'école ? C'est pas seulement un enfant qui regarde sa tablette pendant que le professeur parle, c'est tout un milieu attentionnel avec, oui, l'enseignant, avec le proviseur, avec ce que les parents disent de l'école, avec ce que le ministre de l'Éducation font pour structurer l'environnement scolaire.
Effectivement, c'est l'exemple de la classe que vous évoquez tous ces gens qui disent « mais aujourd'hui, les jeunes regardent leur smartphone ». Comme il y a 20 ans d'ailleurs, on disait « les jeunes lisent des livres », en tout cas au 19e siècle, quand on avait peur du livre de poche. C'est beau, ce moment où on avait peur du livre de poche. Alors vous dites « l'enfant, même quand il n'a ni livre ni smartphone, parfois son attention est ailleurs ». Donc vous évoquez la nécessité de parler en plus d'attention au pluriel.
Voilà, hein. L'attention dont on parle toujours au singulier, en fait, ça recoupe toute une série de choses très 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 différentes. L'attention que j'ai en conduisant, l'attention que j'ai pour un enfant malade, l'attention que j'ai lorsque je lis un livre de poésie. On ne peut l'homogénéiser, ça c'est quelqu'un qui s'appelle Georg Frank qui a bien dit ça, qu'à partir du moment où on a un outil de mesure qui justement l'homogénéise. Et là, il se trouve que c'est Google, que c'est justement le ranking de Google, ça permet de tout homogénéiser.
Le référencement de Google, effectivement.
Mais c'est un point de vue très très particulier. Économiste, alors que la réalité, c'est une diversité énorme de régimes attentionnels, de modes attentionnels, de qualités attentionnelles, etc.
Effectivement. Et vous continuez à relire notre présence, et en tout cas essayer de le décrypter, à l'aune d'un autre concept qui est tout aussi important, qui est celui de l'archéologie des médias, qui n'est pas nécessairement d'ailleurs un concept. Il y a deux mots très importants, archéologie et médias. Déjà, vous nous dites, et ça vous nous le disiez depuis longtemps, depuis votre livre Médiarchie, qui reprend d'ailleurs le même terme grec, celui de l'arché. Arché en grec, ça veut autant dire pouvoir que origine, d'où le mot archéologie des médias. Et alors là, déjà, vous nous dites que quand on parle de médias, nous, quand on dit le média ou les médias, avec accent ou sans S, on pense très vite aux mass médias, parfois aux réseaux sociaux, on dit social media en anglais, et que c'est une acception finalement extrêmement réduite, là encore, de ce qu'est un média. Alors vous donnez d'ailleurs dans cette introduction, vous posez les jalons, vous dites quand on parlera de médias sans mettre d'accent, on parlera de toute interaction, en tout cas toute interaction, toute manière de communiquer. Quand on dira média et accent aigu S, on parlera de mass média. Et quand on parlera de médium, on parle de quoi ?
Alors, on parle du fait qu'il y a toujours une excédence dans la communication humaine de la communication elle-même par rapport au contenu. À savoir le fait qu'ici, on se voit, vous me faites des petits signes de la tête, on est en commun, hein, la communication, c'est aussi du commun. Il y a quelque chose qui est produit justement par cet environnement, par ce commun, qui transcende, qui excède l'information qui peut passer d'une bouche à une oreille. Et de prendre compte de ceci, de tenir compte de ceci, ça nous amène à revenir à ce qui s'appelait chamanisme, à ce qui s'appelait sorcellerie, à ce qui est de l'ordre de la magie, parce qu'on ne sait pas très bien comment le saisir, comment le rationaliser, comment le calculer, comment le vendre, et pourtant c'est omniprésent. Donc parler de médiumnisme, et non seulement de médiaticité, c'est quelque chose d'important, et là dans ce volume collectif, qui était en fait un colloque à Cerisy, où pendant une semaine on a construit un petit milieu attentionnel de discussion très interdisciplinaire avec des artistes et autres, on a fait durant ce colloque une sorte de manifeste
mais pas une sorte, hein, manifeste
médiarchéologiste qui ouvre un petit peu le volume, où justement on essaye en 3 ou 4 pages de donner un certain nombre de principes de décalage par rapport à la théorie des médias dominantes, par rapport à l'histoire des médias dominantes, qui sont merveilleux, qui font des choses absolument admirables. Nous, on essaye justement d'amener quelque chose d'autre, et cette dimension médiumnique, cette dimension d'environnement qui nous envoûte, est tout aussi importante que de réfléchir simplement en termes de données qui se vendent ou qui s'achètent.
Et on va revenir sur ce thème d'archéologie l'écologie des médias, et vous le dites en fait, vous dites l'histoire des médias est une discipline qui existe, mais qui a pour nous l'énorme défaut d'être trop linéaire, c'est-à-dire qu'on va nous on va parler de des premiers codes de l'écriture en Mésopotamie, puis de l'arrivée des journaux, puis de l'arrivée de la télévision, puis de l'arrivée de ce que vous appelez, ce qu'on appelle tous les nouvelles technologies, comme si elles arrivaient ex nihilo. Or pourtant, cette vision linéaire ne nous aide pas à penser ce qui nous arrive. Il nous faut penser plutôt une archéologie. Ça veut dire quoi, tout simplement?
Alors, une archéologie, très très pratiquement, ça veut dire que l'archéologue, il creuse, et que le passé, c'est pas quelque chose qui est mort, qui est révolu, c'est quelque chose qui est dessous. Et donc, de se dire, par exemple, bon, ben, les pigeons voyageurs, on les utilise peu aujourd'hui. Il y a toujours des pigeons voyageurs, ça peut coûter 200 000 euros un bon pigeon voyageur, mais c'est pour autre chose que pour communiquer des informations. Le télégraphe, ça s'utilise plus. Et pourtant, quand on regarde...
C'est un média comment... zombie, vous dites.
Pardon? Voilà, si on peut appeler ça des médias zombies, on a tout un vocabulaire pour ça. Et pourtant, le télégraphe, qu'est-ce que c'était aussi le télégraphe? C'était des phénomènes de codage. Pour crypter, c'était des phénomènes de codage pour raccourcir la communication. Ce qu'on fait aujourd'hui avec nos téléphones intelligents, avec des SMS où les jeunes inventent des codes, ce qu'on fait avec de la cryptographie, etc., c'est bien la survivance de quelque chose qui s'est mis en place à travers le télégraphe, qui est là. De même que si on regarde par où passent les câbles Internet, c'est souvent des câbles de télégraphe qui ont, que ce soit sous l'océan ou que ce soit dans les forêts, qui ont coupé, et c'était les lignes de train. Donc il y a toute une présence du passé qui n'est pas résolue par le nouveau médium. Le nouveau médium, il faut comprendre que justement, il réinvestit quelque chose, il s'appuie dessus, et c'est de comprendre ces structurations par couches qu'invite à faire l'archéologie des médias.
Et vous, d'ailleurs, vous invitez à faire les deux, c'est-à-dire à regarder évidemment ce qui se passe aujourd'hui à l'aune de ce qui s'est passé dans le passé, et inversement de réquestionner des choses du passé à l'aune de ce qu'on sait aujourd'hui. Vous donnez cet exemple merveilleux que j'ai découvert, notamment qui existe dans l'île de Villiers de l'Isle-Adam, avec cet historien de la claque au théâtre, qui a essayé de travailler sur qui étaient ces gens et quelle était l'économie de la claque, ces gens qu'on engageait pour venir applaudir au théâtre. Voilà. Et Villiers de l'Isle-Adam qui déjà à l'époque imagine un robot qui pourrait produire de la claque, et vous, clairement, on est sur un ancêtre de Facebook ou d'Instagram, quoi, ou des bots numériques.
Ou des canned laughter, comme on appelle ça à la télévision. Les rires enregistrés, voilà, tout ceci. Hein, c'est Martial Poisson qui étudie ça. Donc on peut voir ça à travers la littérature, on peut voir ça avec des gens qui font du travail historique. On a Erki Utamo qui fait un très bel article sur le miroir magique. Qu'est-ce que c'était que le miroir magique? C'était des miroirs dans toute une tradition qui remonte à 5 ou 6 siècles. Un miroir qui nous permettait de voir l'avenir. Et on se dit, bah, tiens, voilà, ça n'existe pas, c'est de la sorcellerie, c'est de la magie, etc. Et en fait, aujourd'hui, vous avez des gens, encore, vous pouvez acheter des miroirs magiques sur Internet qui vous permettent de voir l'avenir. Donc là, on se dit, bon, ben, y a des naïfs qui payent de l'argent pour ça. Moi, quand j'écoute les nouvelles à la radio, ou lorsqu'on m'annonce qu'il va y avoir un remaniement ministériel à la télévision, c'est bien un petit peu ça. On me dit pas ce qui s'est passé, on fait des sortes d'hypothèses pour me faire comprendre que le nouveau ministre de ceci, ça va être cela, et c'est bien une sorte de miroir magique qui passe par TF1, qui passe par France 2.
Alors effectivement, dans cet ouvrage, alors évidemment, il y a toute une foule d'articles passionnants, notamment une archéologie de la notification. Ça, c'est pareil, il y a vraiment des choses à explorer, à la fois du côté de l'esthétique et du côté de la recherche, sur tout ce matériau infini qu'on accumule. Alors, on va dire, avec ce changement numérique, vous réfutez ce terme et vous avez bien raison, mais on est dans une accumulation de matériaux presque unique.
Absolument. Quand je disais que le passé est toujours présent sous le présent, il y a toujours des choses absolument nouvelles qui se mettent en place. On l'a vu tout à l'heure avec les problèmes que se pose la CNIL. C'est des problèmes, moi je peux vous dire, oui, ça ressemble un petit peu à ça, puis on fait le malin en disant qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est absolument faux. Il y a toujours du nouveau. Et justement, on voit les questions que vous posiez, c'est à quel point on est démunis pour essayer de comprendre ce nouveau dans ce qu'il a de nouveau. Et souvent parce que justement, on ne voit pas ce qui se répète. Et là, un petit peu le défi de l'archéologie des médias, c'est de se dire, c'est très difficile de trouver quelque chose de véritablement nouveau. Quand on creuse un peu, on voit que ça répète, mais c'est nécessaire de
réaliser justement ce qui relève de la nouveauté et ce qui ne relève de pas, alors qu'on parle de disruption et de nouvelles technologies constamment. Voilà. Yves Citon, vous restez avec nous, il est 20h12. Je rappelle le titre de ce livre, Écologie de l'attention, archéologie des médias, la promesse finalement est dans le titre, sous votre direction et celle d'Estelle Doudet. Je crois qu'on est sur une quarantaine de contributions, voire plus que ça.
Merci Zola. Merci Zoé Sfès, 20h12 sur France Culture.
Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
Le club de la presse numérique, on parle ce soir des penseurs du web. Alors, qui sont les plus importants penseurs du web et d'Internet? Quels sont les livres majeurs qu'il faut absolument, ou essayer en tout cas, d'avoir lu pour comprendre le numérique, ce qui peut vous donner des idées de lecture pour l'été, les idées et concepts à connaître, les sujets qui font débat. En 2015, nous avions déjà consacré une émission Soft Power, une émission entière à ces penseurs, depuis les pères fondateurs, George Orwell, Marshall McLuhan, ou encore Gilles Deleuze, aux écrivains. On avait cité Jonathan Franzen, Dave Eggers, Thomas Pynchon, en passant par les économistes tels Jeremy Rifkin ou Chris Anderson, les intellectuels Zygmunt Bauman, Bruno Latour et quelques penseurs atypiques. Je me souviens qu'on avait cité Lawrence Lessig, Dana Boyd, Ray Kurzweil, etc. Une émission qui avait provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, chacun souhaitant bien sûr ajouter ses propres penseurs ou penseuses, Fred Turner, Jacques Ellul, Norbert Wiener, etc. Alors aujourd'hui, je vous propose, dans les minutes qui nous sont, qui suivent, on va pas tout refaire, mais on a décidé de mettre à jour un tout petit peu cette liste avec quelques auteurs et quelques réflexions qui nous semblent, en toute subjectivité et sans aucune volonté d'exhaustivité une nouvelle fois, mériter que l'on s'attarde sur leurs œuvres. Alors pour en discuter ce soir dans ce studio, sont restés avec nous Sandrine Cassini du journal Le Monde, Gilles Fontaine de Challenge, Yves Citon, également resté avec nous, et Zoé Sfès de France Culture. On commence peut-être avec vous, Sandrine Cassini. Vous souhaitiez ajouter deux penseurs par rapport aux listes qu'on avait déjà faites.
Oui, tout à fait. Je souhaitais ajouter Eric Brynjolfsson et Andrew McAfee. Ce sont deux économistes chercheurs du MIT. Ils ont contribué pour 3 ouvrages à la pensée de l'Internet, du numérique, de la technologie. Ils ont commencé avec un ouvrage qui s'appelait Rage Against the Machine en 2011. Et puis, un autre ouvrage qui a connu un succès mondial, alors qui peut paraître un petit peu vieux, mais qui est très actuel, qui est Le deuxième âge de la machine. Et un dernier ouvrage, Des machines, des plateformes et des foules, il y a 2 ans. Alors, tout ça s'inscrit dans une continuité. Ce qui est intéressant chez eux, c'est la façon dont ils expliquent et ils veulent démontrer pourquoi la technologie, d'une manière générale, c'est-à-dire l'Internet, les ordinateurs, la puissance de calcul, l'intelligence artificielle, etc., est une nouvelle révolution industrielle, au même titre que l'a été la même importance que la machine à vapeur ou l'électricité il y a 2 siècles. On peut considérer que c'est pas... Pour peut-être chez nous, parce qu'on aime bien la technologie, on peut considérer ça comme évident, mais ça ne l'est pas du tout. Chez les économistes, ça fait d'ailleurs débat. Personne ne considère parce que ça n'a pas pour l'instant les caractéristiques d'une révolution industrielle, à savoir il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de productivité issue des technologies, ça n'a pas résolu le problème de l'emploi. Donc ce qui a été le contraire un petit peu des innovations précédentes. Et là, eux s'attachent à le démontrer. Donc, parce que pour eux, la technologie, c'est un peu, ils font cette comparaison qui est assez fondatrice. Ils la comparent à la machine à vapeur. La machine à vapeur a permis de renforcer la puissance musculaire, à automatiser la tâche, à renforcer la puissance, on va dire, physique. Et l'ordinateur, enfin, de façon extensive, lui, permet de renforcer la puissance intellectuelle. Et c'est ça qui fait, pour lui, la caractéristique de cette révolution. Donc, pourquoi aujourd'hui ça ne se traduit pas dans les chiffres ? De manière macroéconomique, c'est parce que, selon eux, on est au tout début de cette révolution, même si l'ordinateur existe depuis, on va dire, l'après-guerre. Internet n'est pas si vieux, de manière générale, c'est 95. Donc, on est au tout début. L'électricité, ça a mis quasiment 100 ans avant d'être dans tous les foyers. Donc, il faut être patient.
On n'est qu'au début de cette révolution.
On n'est qu'au début, selon eux. Exactement. Donc, et après, il y a un moment, toujours, souvent quand il y a une technologie, il y a un moment, il y a un effet de cliquet et il y a une croissance exponentielle. Enfin, les effets sont démultipliés à un certain moment, on n'en est pas encore là.
Et déjà un petit peu quand même, mais...
Oui, dans les innovations, mais on peut dire que ça va, par exemple, l'intelligence artificielle, ça peut aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'est pas vraiment intelligente. Enfin, selon les chercheurs, elle n'a pas du tout atteint les capacités de l'homme. On n'est pas encore capable de faire des diagnostics médicaux. Elle ne remplace pas du tout la pensée humaine. Peut-être qu'on n'arrivera pas là, mais en tout cas, on n'est qu'au début. Donc voilà, c'est
une réaction sur ces auteurs, quelqu'un ?
Oui, je connaissais pas en fait. Je sais pas si j'ai le droit de le dire. Donc ça m'intéresse beaucoup. Mais c'est vrai qu'on en parle souvent de cette mutation en cours.
L'idée que finalement la machine renforcer le physique, remplacer l'effort physique, mais que l'intelligence est remplacée par l'ordinateur ou en tout cas renforcée.
Démultiplier.
Et que ces cycles sont beaucoup plus courts. Enfin, surtout que la machine à vapeur, c'était comme le disait Sandrine, c'était des décennies et des décennies.
Vous étiez encore assez jeune à l'époque.
J'étais encore assez jeune, Frédéric. On était ensemble pour le bac à sable, mais. C'est vrai que ça mérite d'abord c'est un petit peu effrayant aussi ça je fais la transition peut-être avec mon auteur à moi si vous voulez puisque
absolument on est en votre plein auteur dedans,
je voulais parler de Jean-Claude Van Damme au départ mais nos auditeurs n'étaient pas forcément très aware donc je vous propose de parler de Kai Fu Lee qui est un
on connaît beaucoup plus
qui est beaucoup mieux qui n'est pas un champion de karaté mais qui est un grand
quand même un penseur, super power
qui est un grand penseur chinois à la fois de l'internet et de l'intelligence artificielle. Ce monsieur a passé une grande partie il a 57 ans aujourd'hui mais il a passé quand même 25 ans de sa vie aux États-Unis. Il est diplômé de Carnegie Mellon. À l'époque, son sujet de thèse, déjà, c'était la reconnaissance vocale. On a fait quand même pas mal il s'est passé pas mal de choses depuis sur ce terrain-là. Et effectivement, il a sorti un livre aux États-Unis l'an dernier qui va paraître en France à la rentrée, enfin, en français, et qui évoque justement ces super powers. Alors, ça s'appellera pas comme ça en français. Malheureusement, je trouve que le titre était très bien et allait très bien en français. Mais qui évoque très bien cette bagarre entre les États-Unis, la Silicon Valley pour être plus précis, et la Chine sur ce terrain de l'intelligence artificielle. Et alors lui, l'Europe, n'en parlons même plus parce qu'on est de toute façon complètement largué, parce qu'on a raté tous les rendez-vous. Et finalement, on n'a pas du tout profité des effets de levier qu'on réussit à mettre en place.
Mais au moins, on a une CNIL, donc c'est déjà pas mal.
Mais on a une très bonne CNIL et très efficace et qui fédère les autres CNIL européennes, comme nous l'expliquait tout à l'heure Marie-Laure Denis. Le gros travail de la Silicon Valley, c'était cette espèce d'ultra-collaboration interdisciplinaire entre les différents acteurs. C'est-à-dire que les gens des semi-conducteurs ont travaillé avec les gens du PC, qui ont travaillé avec les gens du logiciel, qui ont travaillé avec les gens de l'Internet, qui ont travaillé avec les gens des réseaux sociaux et avec les gens du... Tout ça a créé une espèce de grand cercle vertueux qui a très bien fonctionné. Et maintenant, tous ces gens travaillent avec les gens qui font de l'intelligence artificielle. La Chine est arrivée beaucoup plus tard. Ils sont à la traîne surtout, donc ils font ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'ils font le fameux leapfrog, le saut du crapaud, et ils passent directement aux technologies les plus récentes. Ils ont un autre avantage, c'est quand même leur marché, près d'un milliard et demi de consommateurs, une culture unique, une langue unique,
quasi unique,
dictature, on peut le dire aussi un peu unique. Donc ça va beaucoup plus vite. Et il raconte tout ça dans son livre, Kai Fu Lee. Et puis finalement, ça c'est pas forcément dans le livre, mais il le dit parce que je vous conseille d'ailleurs ces conférences TED qui sont assez courtes et remarquables pour des gens comme moi. Je comprends à peu près tout ce qu'il me dit. Il me parle d'intelligence artificielle et j'arrive à comprendre tous les enjeux. Il est très clair, il est drôle en plus. Mais là où il est moins drôle, c'est qu'il dit que pour les Américains, en fait, c'est fini aussi et que la Silicon Valley, c'est mort. Pour une seule raison, c'est qu'ils n'ont pas la masse critique pour cette fameuse intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, la matière brute, c'est de la donnée. Et la donnée, ils l'ont massivement en Chine aujourd'hui. Alors, les géants chinois de l'Internet suivent, sont effectivement très très présents sur ce marché chinois. Les Américains sont plus sur les États-Unis et sur les pays développés, où on a justement toutes ces contraintes réglementaires, etc., qui n'existent pas en Chine. Et donc, l'intelligence artificielle, ça va encore plus vite aux États-Unis.
Sandrine Cassini, brièvement.
Oui, j'ai l'impression, juste pour modérer le propos de Kai Fu Lee, j'ai l'impression qu'il prêche un peu pour sa paroisse, mais parce qu'il y a tout un mouvement dans l'intelligence artificielle aujourd'hui, de la part des GAFA, qui voient bien ces contraintes réglementaires arriver, en tout cas l'attention qui est portée par l'utilisateur à leurs données. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de travaux et d'essais pour faire de l'intelligence artificielle avec le moins de données possible. Parce qu'aujourd'hui, les algorithmes sont très puissants. Il y a
Machine learning,
avec du, ça s'appelle.
On apprend aux machines à faire.
Apprendre. Ouais.
À apprendre et à faire les choses toutes seules.
Oui, mais ça, c'est aujourd'hui, c'est. Oui, c'est mais... le dur de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est le machine learning, le deep learning. Donc, il faut traiter énormément la donnée pour en traiter les machines. Et Sandrine, effectivement, évoque le fait qu'il y a aussi plein d'autres pistes, mais qui sont beaucoup moins mûres que celle-ci.
Oui, mais est, du coup, est-ce que demain, enfin, juste pour revenir là-dessus, c'est est-ce que demain, il faudra vraiment une capacité de données immense pour faire de l'intelligence artificielle, ou est-ce que ça va juste dépendre du talent des ingénieurs? Quand on voit tous les rachats d'entreprises par les Google et compagnie, on peut dire que la bataille n'est pas forcément perdue.
La bataille
perdue.
Entre la Chine et non. les États-Unis continuera, ouais. On en reparlera dans cette émission. Yves Citon, professeur Citon, vous aviez envie de défendre un auteur qui s'appelle Benjamin Bratton.
Oui, Benjamin Bratton, c'est quelqu'un qui enseigne aussi en Californie plutôt le design et qui a fait un livre qui s'appelle, alors en anglais, The Stack, qu'on a traduit en français par le stack. Le stack, ça veut dire l'empilement. Et qu'est-ce que c'est que ce que nous décrit le stack? Il appelle ça une méga-structure accidentelle. C'est d'essayer de se représenter, comme vu depuis Saturne, ce que c'est qu'Internet sur la planète Terre. Et quand on pense ça habituellement, il me semble, on se dit, bah tiens, c'est justement de la donnée, c'est quelque chose qui serait à la surface. On avait des gens comme Thomas Friedman du New York Times qui nous disait, le monde est plat. La mondialisation, la globalisation, c'est que le monde est plat. D'accord. Bratton, il nous dit le contraire. Il nous dit, il faut comprendre la verticalité dans cette censée platitude des données qui circulent à travers nous. Et donc, il distingue 6 couches. On va commencer par le bas. La couche du bas, tout à l'heure, vous disiez, la matière brute, c'est des données. La matière brute, c'est aussi du silicium, c'est aussi quelque chose qui va produire l'électricité, c'est du nucléaire, c'est tout ceci. Donc d'abord, on commence avec la Terre. Première couche, la Terre. Et on se rend de plus en plus compte que le numérique, le virtuel, etc., ça épuise aussi la Terre. Première couche. Deuxième couche, le cloud. Le nuage, là on comprend bien que c'est pas le nuage qui flotte sur nous, mais c'est justement ces données qui ne flottent pas, mais qui sont dans des serveurs. Hein. Serveur, c'est le disque dur de quelqu'un d'autre. Donc on a le cloud avec des plateformes, avec les GAFAM dont on parlait tout à l'heure. Couche supérieure, la ville. Parce que les données, ça fonctionne à travers des corps humains. 50% de la population humaine, ça vit en ville, et il faut toute une logistique pour alimenter ces villes. Donc, ville. Ensuite, couche supérieure, l'adresse. Ce qui fait qu'on existe dans ce monde du stack, c'est pas tellement des identités, même si vous avez discuté tout à l'heure le fait que la reconnaissance faciale, ça essaye de lier quoi? De lier des identités à des corps, mais ça passe par des adresses. Couche supérieure, des interfaces. Toutes ces données, elles n'existent pour nous, nous ne pouvons les utiliser qu'à travers tout un jeu de logiciels d'interface. Et dernière couche, les utilisateurs. Qu'est-ce qui se passe lorsque je fais une recherche sur Google? Moi, utilisateur, je fais une demande ou je clique, ça passe par des interfaces, ça passe par mon adresse, ça mobilise des choses qui vivent autour des villes. S'il n'y avait pas ces villes et toute cette logistique, si ceci s'effondre, il n'y a plus rien qui existe autour. Ça va sur des serveurs, lesquels pompent de l'énergie pour faire fonctionner et ensuite faire remonter tout ça vers l'utilisateur. Donc, il nous donne une théorie des souverainetés. Tout ceci, c'est des couches de souveraineté. Il n'y a pas seulement la souveraineté des États qu'on a vu tout à l'heure, mais chaque couche a sa souveraineté propre.
Voilà, ça s'appelle Benjamin Bratton, The Stack.
Merci. Zoé Sfez, moi, je vais être très courte. Je voudrais vous parler de Trevor Scholz et d'un tout petit livre qu'il a publié en France très récemment. Mais Trevor Scholz, il faut le dire, c'est donc enseignant-chercheur à New York School for Social Research de New York. Et c'est lui le père du digital labor qui a été repris ensuite par Dominique Cardon et Antonio Casilli qu'on a souvent reçu ici. C'est lui qui, le premier, a été chercher cette fameuse question de dire, en fait, tout ce qu'on nous vend comme de la gratuité, évidemment, est le fruit d'un travail. Il y a à la fois ceux qui travaillent, les livreurs des livres, mais aussi le travail que vous, en tant qu'utilisateur et que consommateur, vous faites sans imaginer que c'est du travail, celui du référencement, celui qui consiste à entraîner des intelligences artificielles souvent à votre insu. Et c'est un des principaux détracteurs du concept de la plateforme aujourd'hui. Il a publié cet excellent tout petit livre que vous pouvez lire en une heure qui s'appelle 10 principes contre l'ubérisation et le business de l'économie du partage, le coopérativisme de plateforme, donc qui définit dans une première partie ce que c'est que ce coopérativisme de plateforme. Il appelle ça, effectivement, lui dit que c'est une révolution industrielle sans en être une parce que ça ne crée pas de valeur. Il dit que cette économie se nourrit des restes. C'est une réganisation. Et il va juste un tout petit peu, en 10 principes, en se basant sur des exemples existants et d'autres qui sont fictifs, souhaitables, donner 10 règles pour que, finalement, on reprenne la substantifique moelle de ce qu'a inventé Uber, ce qu'a inventé Amazon, qu'on le reprenne à notre compte et qu'on crée des coopératives. L'un des premiers principes pour que ça fonctionne, eh bien, c'est la propriété. Il dit l'économie du partage nous a fait croire qu'il ne fallait plus être propriétaire. Et il faut de la propriété, évidemment, bien répartie. Trevor Scholz. Très bon livre.
Comme on manque de temps, temps, je me limiterai pour terminer à un ouvrage. Vous avez parlé de 10 règles. Moi, j'ai 10 arguments pour tout simplement supprimer vos réseaux sociaux. C'est un livre de Jaron Lanier qu'on connaissait pour avoir déjà critiqué la démocratie, son évolution à cause du numérique. Son ouvrage s'appelait Who Owns the Future, à qui appartient le futur. Et dans ce nouveau livre, 10 Arguments for Deleting Your Social Media Account Maintenant, eh bien, il décrit comment on devient méchant, menteur, on perd son empathie, on devient malheureux aussi, on a des addictions et puis enfin on menace la démocratie, tout ça à cause des réseaux sociaux. Alors ça a l'air comme ça un peu simple, mais c'est une analyse assez pertinente, assez forte et qui revient à diminuer très fortement ou dans certains cas fermer ses comptes des réseaux sociaux pour une vie sociale saine et une bonne hygiène de vie numérique. L'auteur s'appelle Jaron Lanier. Alors, on a évoqué ce soir beaucoup de noms d'auteurs, beaucoup d'ouvrages. Tous ces noms et cette liste mise à jour est à retrouver sur le site de France Culture avec les auteurs dont on avait déjà parlé au cours d'émissions antérieures et on continuera à faire ce travail, à mettre à jour cette liste et sans doute on refera l'année prochaine une émission sur les penseurs et les penseuses du web. Ce soir d'ailleurs c'était beaucoup des hommes je crois.
Ouais, il n'y avait pas une fille et ça c'est vraiment pas
terrible. Wendy Chun la prochaine fois.
Voilà, ouais. On a beaucoup de filles dans notre liste en ligne. On en reste là pour ce soir, merci infiniment. Infiniment à tous les quatre. Sandrine Cassini du Monde, Gilles Fontaine de Challenge, Zoé Cézé de France Culture et Yves Citon.
Il dit que le stack vient de paraître en français à UGA Édition.
Voilà, on avait oublié de le signaler. Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power sur notre site France Culture. Dans un instant, Carbone 14, magazine de l'archéologie de Vincent Charpentier. En attendant, et à dimanche prochain, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end.